Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Nous nous intéressons aux réseaux et télécoms dans cette émission. Notre invité s'appelle Pierre-Yves Farjas. Il est membre du directoire du groupe Scop Elec, entreprise spécialisée dans les réseaux télécoms. Scop Elec est une entreprise occitane née à Revel. Elle emploie aujourd'hui quelques 700 salariés avec une vraie singularité. C'est une société coopérative, la première de France d'ailleurs en nombre de salariés. Bonjour Pierre-Yves Farjas.
Bonjour.
Alors Scop Elec est une Scop, on vient de le dire. Alors pourquoi ce choix, Pierre-Yves? Pourquoi ce choix de Scop?
Alors je m'excuse, je vais commencer par, je ne vais pas faire l'homme politique moyen, mais le groupe Scop Elec a 3500 salariés. Et l'entité Scop Elec
3500 sur toute la France.
Sur toute la France. Et 700, c'est le nombre de salariés que nous avons sur l'Occitanie.
Sur l'Occitanie, d'accord.
D'accord, donc pour être
voilà, pour être très précis, vous avez raison de le préciser.
Voilà, et donc quand vous dites que nous sommes la première Scop de France en termes de salariés, effectivement, c'est sur la base totale du groupe. Donc, pour revenir à votre question, oui, Scop Elec a été créé en 1973 à Revel. Alors, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Revel était une petite bourgade, l'est toujours, dans la périphérie toulousaine. Mais voyez un exode important des jeunes vers la capitale toulousaine.
Ouais, vers la ville.
Vers la ville, qui allait chercher des emplois. Il y avait le développement effectivement de l'industrie aérospatiale qui à l'époque
attirait beaucoup de monde.
Mm-hmm. Et donc un certain nombre de notables locaux, donc l'abbé Berthuis, un notaire, quelqu'un qui avait des responsabilités dans une banque, se sont dit ça peut pas continuer comme ça, faut qu'on crée quelque chose qui permette de retenir les gens localement, de créer de l'emploi localement, sinon on va avoir une désertification progressive de notre commune. Et donc ils se sont dit ben, que peut-on faire? Alors à l'époque on était au tout début du plan qu'allait lancer le président Giscard d'Estaing pour implanter les télécoms, pour que chacun ait son téléphone dans les territoires. Et donc, l'idée a été de se positionner en tant que sous-traitant à l'époque de ce qui était les PET, qui est devenu France Télécom, qui est devenu Orange depuis. Et donc, ils ont créé l'entreprise. Ils ont dit, comme c'est une entreprise qui a un but social fort, ça leur est apparu tout naturel de créer l'entité au status quo pour marquer véritablement son caractère social et sociétal fort. Ouais. Et depuis, nous sommes restés sur dans cette optique-là. La société s'est développée, le nombre de collaborateurs, de sociétaires a fortement augmenté pour atteindre effectivement le chiffre dont on a parlé tout à l'heure, environ 3500 salariés à fin 2017
en France,
et un peu plus de 400 millions de chiffre d'affaires. Ce qui nous donne, au niveau du groupe, le statut d'ETI, entreprise taille intermédiaire. Donc on n'est déjà plus une PME, on n'est pas encore un grand groupe, mais voilà, on y travaille.
Et on peut travailler, j'allais dire en Scop, sur ce type de modèle, avec autant de personnes?
Ouais, écoutez, on le démontre
oui,
chaque
jour. Parce
que
c'est une très belle réussite.
C'est une belle réussite, alors qu'il n'y a pas été sans moments difficiles, évidemment, comme toutes les belles histoires, il y a des moments qui sont moins agréables que d'autres, mais il faut en passer par là pour grandir, apprendre. Aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais on a notre part de challenge au quotidien pour continuer à donner à l'entreprise les moyens d'investir, de se développer. Pour l'instant, ça fonctionne.
Le fait d'être en Scop, c'est une vraie valeur ajoutée.
C'est une vraie valeur ajoutée, c'est un élément différenciateur. Hein. Vous savez, on est dans un secteur très concurrentiel, qui est la sous-traitance Alors sous-traitance pour les grands opérateurs, mais aussi on a certaines opérations qu'on fait en direct, sur l'installation, le déploiement et la maintenance de réseaux télécom, qui est un sujet très, très populaire
et sensible.
Et sensible actuellement.
La fibre optique, c'est vous,
exactement,
par exemple.
Exactement, la fibre optique, c'est nous. Et donc, ces secteurs-là sont concurrentiels. Donc, ça demande effectivement au quotidien d'avoir un investissement de tous les salariés et d'avoir des éléments qui vous différencient de la concurrence. Eh bien, nous, l'un de nos éléments différenciateurs, c'est justement notre statut, c'est l'engagement au quotidien de nos salariés qui en résulte. Et on a un retour de nos clients, certains grands clients comme Orange notamment, qui nous disent bah, c'est pas tout à fait pareil de faire des affaires avec Scopelec que de le faire avec d'autres, ouais. D'autres entités. Donc cet élément différenciateur est reconnu.
Alors l'essor de la fibre optique, on en parlait justement il y a un instant, est-ce que ça a permis à votre entreprise de se sentir pousser des ailes? Vous avez beaucoup plus de demandes.
Il y a une croissance qui est très importante dans le secteur. Effectivement, alors il y a eu le plan France Très Haut Débit qui a commencé il y a quelques années
et
en France.
Qui est en cours encore.
Qui est en cours, d'accord. Le gouvernement actuel a décidé, je pense que c'était une bonne décision, d'anticiper sur les échéances initiales. Parce que le déploiement de la fibre est un vrai enjeu d'aménagement du territoire. On parle de fracture numérique. Si on veut réduire la fracture numérique, comme par le passé, certains voulaient réduire la fracture sociale, eh bien, il faut déployer ces infrastructures. Mmh. Ça permet tout un tas de nouveaux services, une nouvelle économie dans les territoires. Alors, il faut savoir là-dessus que c'est une des choses dont on est très fiers. Nous, on a plus de 80% de nos implantations qui sont dans des zones rurales et semi-rurales. Effectivement, on a surfé et on continue de surfer un peu sur le développement de cette infrastructure fibre optique. À l'avenir, bien évidemment, il y aura la nécessité de maintenir cette infrastructure. Pour l'instant, on travaille surtout sur son déploiement et la mise en service. Oui.
L'une des clés de votre succès, c'est d'avoir démarré en région, à Revel.
Oui, tout à fait. Alors, l'entreprise est restée pendant, de 73 au début des années 90, essentiellement une entreprise régionale. Même pas occitane, hein, au sens de la Nouvelle-Occitanie, mais Midi-Pyrénées. Et puis, à partir des débuts des années 90, a commencé à grandir d'un point de vue national. Aujourd'hui, on a 80 implantations sur le territoire métropolitain, plus une présence aux Antilles et à La Réunion. Et effectivement... un carnet de commandes, une visibilité sur notre carnet de commandes qui est importante. Il y a beaucoup de travail. On embauche de façon très régulière. Hein. L'entreprise, en termes du nombre de salariés, on a dit 3500 aujourd'hui. On a quasiment doublé dans les 3-4 dernières années. On est l'an dernier quasiment près de 500 emplois nets créés. Même chose dans les tuyaux pour cette année.
500 emplois cette année.
Voilà, oui. Donc on attend que M. Macron se déplace, puisqu'il s'est déplacé chez Toyota pour moins d'emplois que ça. Donc peut-être qu'il viendra se déplacer pour nous voir.
L'appel est lancé. Hein.
Voilà, exactement.
Alors vous allez recruter justement ça. Voilà une information qui nous intéresse également. Vous recrutez quel type de profil?
Alors c'est une question intéressante. En fait... l'un des enjeux forts du plan très haut débit, tout le monde a été très prompt à mettre des chiffres, des euros, des nombres de prises dans les plans. Par contre, peu de personnes se sont occupées de savoir comment on allait le faire et où étaient les compétences. Et à dire vrai, il y a très peu de compétences disponibles sur le marché. Donc on prend des gens avec toutes sortes de formations et on les forme nous-mêmes.
Ah, oui.
Et donc on a notre, on a créé il y a quelques années un centre de formation qu'on appelle Campus, qui est situé à Revel, mais qui a aussi maintenant des implantations dans d'autres parties du territoire. Et on prend les gens parfois de zéro, avec l'équivalent de bac pro,
ouais.
Et puis on les monte en compétences au travers de formations formelles. Après, on a un système de compagnonnage en interne aussi, mm-hmm. pour les accompagner pendant leur premier mois véritablement actif. Et ça fonctionne très bien. Alors c'est un coût, évidemment, qui n'est aujourd'hui pas... en vertu des normes comptables, pas amortissables dans nos résultats. Donc c'est un vrai investissement que
l'on
fait.
Sur le long terme, c'est ça.
Sur le long terme, mais qui fait aussi partie des éléments différenciateurs dont on parlait tout à l'heure.
Alors quand on parlait de profil tout à l'heure, puisqu'ils ne sont pas clairement identifiés sur un plan technique, vous regardez beaucoup le savoir-être ?
Oui, bien
humain.
Évidemment. On est notamment, il faut savoir qu'il y a, effectivement, on a parlé du déploiement, de l'installation des infrastructures, et là, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui tirent la fibre, etc. Mais il y a aussi, on a toute l'activité qui va jusque chez le client final. Donc, dans la région toulousaine, pour ne parler que de celle-là, bien souvent, quelqu'un qui demande l'installation de sa box, mm-hmm. Quand il va chez un opérateur... et notamment Orange, va voir des techniciens Scopelec intervenir chez elle ou chez lui,
ouais.
pour installer les équipements. Et donc le savoir-être est très important dans la mesure où il y a un contact direct
avec le client,
on rentre chez lui. Hein, ou chez elle, et donc c'est pas la même chose que si vous intervenez pour mettre un câble entre deux poteaux, hein, là vous êtes tout seul, vous dérangez que les petits oiseaux. Donc effectivement, savoir-être fait partie à l'embauche, mais aussi durant la formation, des critères que l'on regarde et que l'on renforce dans nos équipes. Là aussi, je ne veux pas faire de devenir monomaniaque, mais là aussi, l'aspect scope a un rôle à jouer, parce que finalement, des gens qui sont, en plus d'être salariés, qui sont actionnaires de leur entreprise, ont une perspective par rapport à la réputation qu'ils peuvent véhiculer.
L'image de l'entreprise.
Et l'image de l'entreprise, ouais. qui est certainement différente. Mmh. Et donc, de ce point de vue-là, l'aspect coopératif est un atout, très clairement.
On se retrouve tout de suite.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Seconde partie de cette émission en compagnie de Pierre-Yves Farjas, membre du directoire du groupe Scopelec. Bonjour Jean-Marie Fehrenbach.
Bonjour Doris.
Un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Jean-Marie, première question à notre invité.
Alors je pense un peu aux clients de votre entreprise. Bon, ce sont, j'imagine, d'assez gros clients, la plupart.
Tout à fait.
Et vous avez un marché qui est assez riche en ce moment, assez attractif de façon générale, mais qu'est-ce qui va faire qu'un client vous choisit plutôt qu'un autre pour assurer ses prestations de déploiement ou plus tard d'entretien de réseau?
Alors, on est effectivement, vous l'avez dit, hein, on a en face de nous des grands donneurs d'ordre, hein, nationaux notamment, et donc, comme dans n'importe quel secteur, il y a un premier critère, qui est le critère économique, les prix. Et donc là-dessus, on a notre part de chemin à faire, comme tous les autres. Après, on en arrive à des critères qui sont peut-être moins tangibles ou que l'on peut moins associer à des chiffres, mais qui sont pas moins importants. D'abord, il y a une histoire d'un partenariat sur la durée et d'une relation qui se bâtit sur la durée. Donc on en revient à des notions de pérennité. Hein. Scopelec, on l'a dit, a été notamment dans sa relation avec France Télécom puis Orange dans une relation de continuité depuis plus de 40 ans. Donc ça crée des liens. Alors les gens changent et bougent, mais au-delà, les deux institutions ont été proches depuis un bon nombre d'années, donc cette relation sur la continuité joue. Et ensuite, il y a aussi, et de plus en plus d'ailleurs, des critères liés au comportement, on parlait tout à l'heure du savoir-être de nos collaborateurs. Le fait d'être impliqué au quotidien dans la marche de l'entreprise, dans son et dans son capital, fait que bon nombre de nos salariés ont une relation au travail qui est peut-être différente de ce que l'on peut rencontrer dans une entreprise plus classique, on va dire. Et ça, nos clients le ressentent. Dernièrement, en tout début d'année, il y a eu plusieurs tempêtes. Et donc, bon nombre d'abonnés se sont retrouvés avec un défaut sur leur ligne téléphonique, sur leur box, etc. Et on a eu des retours, comme chaque année d'ailleurs, hein, où certains de nos clients nous disaient vous, chez Scopelec, on sait que si on appelle un samedi pour être dépanné, la première question qu'on va nous poser en retour, ça ne va pas être on négocie le prix, ça va être d'accord, on y va, on parlera du prix plus tard. Donc, c'est un exemple anecdotique, mais effectivement. Les valeurs que l'on porte, que l'entreprise a portées depuis plus de 40 ans, font quelque part une petite différence sur des critères moins tangibles que les critères économiques.
J'aimerais qu'on parle de vous, Pierre-Yves. Vous êtes rugbyman, vous aimez les challenges. Que diriez-vous de votre métier, de votre quotidien dans l'entreprise aujourd'hui? Stimulant?
Ah oui, c'est extrêmement stimulant, c'est passionnant, c'est stimulant parce que l'entreprise, moi j'ai travaillé, enfin l'objet n'est pas de parler de moi, mais j'ai travaillé dans une des entreprises les plus capitalistiques et les plus grosses qui puissent exister sur la planète, avant de venir chez Scopelec. Je suis toulousain d'origine, c'est un peu un retour au pays, j'avais envie de quelque chose de différent. Mm-hmm. Et envie d'apporter l'expérience que j'avais pu acquérir pendant un certain nombre d'années à l'international et dans des plus grosses structures pour aider Scopelec dans sa structuration. On a parlé tout à l'heure de la forte croissance de Scopelec. Scopelec est aujourd'hui un peu comme un adolescent, hein, qui a besoin d'être quelque part coaché, guidé, pour absorber cette phase d'hypercroissance qu'elle a connue dans les dernières années. Il faut structurer pour justement assurer la pérennité. Il faut conduire un certain nombre d'actions de fond. Et donc, oui, le quotidien chez Scopelec est extrêmement stimulant, challengeant, mais tout se fait toujours dans ce que personnellement j'ai découvert. C'est une entreprise où quasiment tout le monde, je pourrais dire tout le monde, mais je ne veux pas faire de langue de bois, mais quasiment tout le monde est d'extrême bonne volonté et a un grand sens de la bienveillance. Donc c'est une ambiance de travail dans laquelle on sent qu'on peut faire bouger les choses, qu'on peut avancer, même si, comme tout le monde, on a nos moments difficiles, mais il y a cette envie de progresser, d'amener l'entreprise vers un meilleur futur et très prégnante au quotidien.
Jean-Marie, notre question.
Alors, nous avons évoqué la question de vos clients, mais vous avez aussi actuellement une grande activité d'embauche et de recrutement. Qu'est-ce qui va conduire un jeune aujourd'hui à entrer chez vous plutôt qu'ailleurs, à votre avis?
Alors, j'aurais du mal, n'étant moi-même plus très jeune, mais à confirmer ce qui attire les jeunes chez nous. Mais plus sérieusement, d'abord, je pense que la société évolue. Hein, on a parlé des générations Y, etc. Les envies, ce qui attire les jeunes générations vers le monde du travail, tout ça, ce sont des choses qui ont évolué. Et finalement, l'ambiance de travail, la façon dont on se connecte avec les collègues est un critère important. Et on a pas mal de questions là-dessus à l'embauche, sur comment ça fonctionne chez vous, les relations sociales avec la hiérarchie. Et donc, on est une société qui a un mode de fonctionnement très, très décentralisé, où bien évidemment il y a des dirigeants, mais qui sont finalement très accessibles. La relation est assez fluide, même très fluide, au quotidien. Et ça fait partie de. Des choses, quand les gens nous interrogent, qui, je pense, les attirent. La deuxième chose, qui est le fait de participer à une aventure, parce que c'est une aventure, hein, qui dure maintenant depuis 45 ans, qui est différente, qui est quelque chose... une société qui fonctionne dans le mode scope, qui a 45 ans, qui a atteint 3500 salariés, 400 millions de chiffre d'affaires, c'est pas commun en mm-hmm. France. Et ça, quelque part, les gens le ressentent et se disent, tiens, j'ai envie de voir un peu comment ça marche. Et puis après, je dirais qu'il y a l'aspect, et ça rejoint un peu mon premier point, l'aspect humain, la façon dont on interagit doit transparaître quelque part dans
ce ne sont pas que des mots, vous voulez dire.
Ce ne sont pas que des mots, oui, hein, oui. Les valeurs de pérennité, d'engagement, d'importance donnée à l'humain transparaissent. Et puis, ça reboucle avec le dernier point qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait que l'on accepte d'investir pour former les gens aussi dès le départ et prendre des gens sur le marché du travail qui finalement ont très peu de qualifications, les amener à un point où ils ont une vraie compétence reconnue.
Et employable.
Mmh. Ça fait aussi partie des critères qui, je pense, attirent les jeunes et peut-être les moins jeunes aussi.
On terminera là-dessus parce que nous sommes un peu pris par le temps, malheureusement. Être une SCOP, ça veut dire aussi avoir besoin de fonds, de financement. Vous nous avez annoncé un chiffre d'affaires qui est conséquent. Ça veut dire que de temps en temps aussi, vous avez besoin de faire entrer de l'argent dans l'entreprise. De temps en temps, est-ce que vous êtes pris au sérieux par les organismes financeurs ?
Oui, alors les choses évoluent beaucoup. Hein. Alors la première chose pour être pris comme sérieux, déjà, c'est de tenir ses promesses par rapport à ce que l'on dire, ce que l'on fait et faire ce que l'on a dit. Mais je crois que le monde financier évolue. Donc nous, on a bouclé la fin 2017 une opération de levée de fonds de 25 millions d'euros. Alors on a eu dans le process des questions, on a dû probablement faire un effort de pédagogie supérieur à ce que d'autres structures auraient eu à faire pour expliquer qui on est, comment on fonctionne, etc. Parce qu'on a peut-être une apparence de vilain petit canard au départ, mais très rapidement quand on fait cet effort de pédagogie, on rentre sur un dialogue qui est tout à fait le même que celui que l'on peut avoir dans d'autres structures. Et les partenaires bancaires ou les partenaires financiers, finalement, sont de plus en plus attirés. Et les frontières ou les barrières qui pouvaient exister il y a quelques années dans ce domaine-là tombent progressivement.
Très bien. Parfait. On terminera là-dessus, sur ce message plutôt positif. Donc, s'il y avait juste en une ligne quelque chose à dire à ceux qui ont envie de se lancer en SCOP.
Écoutez, c'est une belle aventure. C'est une aventure humaine et qui, donc, à ce titre-là, amène beaucoup de satisfaction. Et donc, effectivement, je ne pourrais qu'encourager... des jeunes ou des moins jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de choisir cette structure-là.
Merci à vous, merci d'avoir participé au Goût d'entreprendre. Si on souhaite vous contacter, groupe-scopelec.fr.
Tout à fait.
Sur le web, merci à vous Jean-Marie. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple, écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.